commentaire politique de Dominique Vallière.
Dominique Vallière, bon, on est en train de préparer les différents aspects de la politique du prochain gouvernement et pour ceux qui ne sont pas au pouvoir, il y a ce qu'on appelle un cabinet fantôme.
Effectivement, puis je sais pas si c'est un hasard que ce soit lancé juste avant l'Halloween, mais cabinet fantôme, je m'excuse, il fallait que je le laisse. Cabinet fantôme, donc, c'est les gens qui ont les responsabilités de poser des questions aux ministres en titre. Et si c'est un casse-tête que de former un conseil des ministres, c'en est aussi un de former un cabinet fantôme parce que c'est là qu'on décide qui aura le plus de visibilité à la période des questions. Évidemment, les gens qui se retrouvent avec les grands dossiers santé, éducation, économie, tout ça. Et pour le PLQ, ben écoute, virage jeunesse, hein. Hier, on nommait... les différents porte-paroles, puis je ne pouvais m'empêcher que de me dire que, un, c'est à peu près toutes des prétendants à la chefferie, et deux, ce sont des députés qui sont très très jeunes ou qui sont pas dans les parages depuis très longtemps, Dominique Anglade, André Fortin, Marois Risky. Écoute, il y avait beaucoup de gens qui ont été surpris, puis moi le premier, quand Sébastien Proulx a été nommé leader parlementaire, parce qu'on disait, souviens-toi, que ça allait lui donner un avantage peut-être indu par rapport aux autres candidats à la chefferie. Ben Pierre Arcan a réussi à changer, en tout cas à rebrasser les cartes pour que ça soit pas un avantage qui soit si marqué, en nommant donc ces gens-là avec les gros... au gros dossier, donc, qui vont leur permettre de se faire voir beaucoup en période de questions. Il y a quelque chose d'autre qui m'a surpris hier, et c'est Marois Risky qui a affirmé, sans détour, penser au leadership. Elle a dit « j'y pense ». Et écoute, elle est élue depuis à peu près 3 semaines. Oui. Elle est ancrée à gauche, puis elle dit « j'y vais ». Puis, je me posais la question, tu sais, au début, je me disais « waouh, ok, c'est un statement, c'est audacieux, effectivement ». Puis après ça, je me suis dit « mais qui est-ce qui occupait... » le rôle de genou de la politique et ancré à gauche chez les libéraux, mais c'était Alexandre Taillefer. Et la semaine dernière, Pierre Arcan n'a pas été gentil avec Alexandre Taillefer. Et probablement que les gens dans le caucus libéral se sont dit « Ouais, on pense pas qu'il va y aller finalement, Monsieur Taillefer. » Et donc, ce créneau politique-là s'ouvrait. Puis Marois Risky, tant qu'à moi, c'est mon analyse, mais s'est dit « Je vais y aller et puis je vais occuper la place. »
Mais alors, sérieusement, faut pas la sortir de cette course-là. On cherche une femme. Ben, on a dit ouvertement, ça serait peut-être le temps d'avoir une femme.
Oui, puis tu sais, Louise Arel l'a dit pour la présidence de l'Assemblée nationale, Christine Saint-Pierre l'a dit pour le parti. Je veux dire, c'est ce qui est dans l'air du temps. Puis pour passer de l'autre côté et aller voir au Parti québécois, tout le monde attend Véronique Yvon. Et puis, Pascal Bérubé a fait le même travail que M. Arcan en nommant son cabinet fantôme hier. Et puis, effectivement, Véronique Yvon, très gros dossier.
Et Dominique Anglade fait pas l'unanimité l'autre bord, là.
Et Dominique Anglade fait pas l'unanimité l'autre bord, effectivement. Donc, mais ça, il va falloir voir aussi, ça va être quoi le mode de nomination du chef du Parti libéral? Parce que traditionnellement, c'est dans un caucus, puis c'est pas dans un caucus, dans un congrès, pardon. Ouais, ouais. Puis c'est des ce qu'on appelle des slates, donc des gens qui sont élus par les membres pour les représenter. C'est moins représentatif que si c'est un membre, un vote, comme au Parti québécois, par exemple. Et donc, Pascal Bérubé, donc, qui a fait ce même exercice-là. Et c'est drôle parce que tout le monde s'attendait à ce que Catherine Fournier soit leader parlementaire, tu sais, dans cette période où, comme tu l'as dit, il y a un appétit pour type de leadership.
On veut des jeunes femmes.
Et des jeunes femmes. Les gens s'attendaient à la voir comme leader parlementaire, mais ce qu'on me dit, c'est qu'elle refuse de dire qu'elle ne sera pas candidate à la chefferie. Et donc, Pascal Bérubé, ne voulant pas l'avantager, parce que à 10 députés, c'est une autre game, là. T'as beaucoup moins de questions. Les gens vont devoir courir les commissions parlementaires. Tu sais, c'est pas comme les libéraux où est-ce que t'as un député qui fait face à un ministre. Là, t'as un député qui fait face à 5 ministres pour le Parti québécois. Donc, ça va être difficile. Puis, Catherine Fournier aurait pu, donc, être vraiment mise en valeur comme leader parlementaire. Mm-hmm. Mais en refusant d'exclure qu'elle va être candidate à la chefferie, M. Bérubé s'est dit, ben, moi, c'est pas vrai que je vais l'avantager.
Mais ça m'a étonné, ça.
On va lui donner d'autres dossiers.
Autant que Mme Risky, d'ailleurs, là, mais ça m'a étonné parce que, oui, c'est une politicienne qui a beaucoup de potentiel. Mais je la sens pas prête. J'ai pas l'impression qu'elle est là.
Ben, écoute, moi, j'ai travaillé avec elle d'assez près. Je l'ai vue arriver à l'Assemblée nationale. La Catherine Fournier qui est là aujourd'hui, elle ressemble en rien à la Catherine Fournier qui est arrivée à l'Assemblée nationale.
Okay.
Elle a Elle a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup progressé. Elle a pris beaucoup d'assurance. Elle avait déjà énormément de qualités, hein. Je veux dire, il faut être quelqu'un qui croit en soi quand tu décides de mettre ta face sur un poteau, puis qu'après ça, tu t'en vas répondre à des questions de journaliste à tous les jours de ta vie pour 4 ans. Sauf que Catherine Fournier a vraiment énormément progressé, mais effectivement, tu peux pas vraiment comparer ça avec des députés qui ont 8, 10 ans d'expérience comme Sylvain Gaudreau, comme Véronique Yvon. Maintenant, rendu là, ce sera aux membres de choisir. Mmh. Si elle décide de se lancer dans la course, ben parfait, ce sera une voix toute jeune, toute fraîche pour parler des défis qui attendent le Parti québécois et le Québec. Puis si les membres décident que c'est vers ça qu'ils veulent aller, ils en ont complètement le droit. Mais reste que ça va être quand même difficile pour le Parti québécois là, parce que t'as pas beaucoup de questions en chambre, puis tu sais, ça va être santé puis éducation.
Et Dominique Vallière, il était question dernièrement de dossiers manquants, de dossiers déchiquetés. Tu sais, quand il y a passation de pouvoir comme ça, tu débarques dans le ministère, puis whoop! Tout d'un coup, il n'y a pas de dossier ou il y a très peu de dossiers. Et certains se demandaient, est-ce que les députés peuvent faire ça? Ils le peuvent. Légalement, ils le peuvent.
Ils le peuvent, mais moi, ça me choque parce que moi, j'ai travaillé dans un bureau de circonscription à aider les citoyens. Là, c'était comme ça que je suis arrivé en politique. C'est un job que j'ai adoré par ailleurs. Mais les citoyens qui viennent te voir, là, ils sont dans le trouble. Hein, ils viennent te voir souvent quand t'es député au provincial. Ils viennent te voir avec des questions qui touchent l'aide sociale, avec des questions qui touchent le logement communautaire, avec des questions. Alors, de devoir demander à tous ces citoyens-là qui sont venus donc pour de l'aide, de repasser pour réouvrir un dossier, je trouve ça cheap un peu. Puis moi, la première job que j'ai eue dans un bureau de comté, c'était en 2006. Et juste pour te raconter, c'était après l'élection fédérale, nous, on arrive dans le bureau et non seulement il n'y a pas de dossier, mais il n'y a même pas de meubles. Et ça, moi, ça m'avait vraiment marqué parce que, dans le fond, la députée qui avait été battue, elle avait une compagnie. Elle s'était acheté des meubles avec sa compagnie et avec l'argent qui était donné par le gouvernement fédéral, elle louait les meubles à sa compagnie pour meubler son bureau.
Elle
s'est fait payer par les fonds publics un paquet de meubles, puis quand elle a été battue, elle a dit « je remballe ça puis je ramène ça dans mon bureau ». Moi, j'avais été outré de voir que, un, on peut utiliser de l'argent public pour faire ça, pour se payer des meubles, et deux, qu'on puisse avoir aucune considération pour les citoyens qu'on a prétendu servir pendant autant d'années. Moi, j'avais été vraiment marqué. Puis, il y a eu beaucoup d'histoires de gens pour qui les transitions se passent très bien. Il y a eu beaucoup de cas dans les dernières semaines. Mais chaque cas où ça se passe mal, écoute, moi, j'ai vu des histoires d'horreur, là, des députés qui changeaient les verrous sur les portes pour pas que l'autre ait accès, des députés qui rendent les mauvais meubles à l'Assemblée nationale en essayant d'en garder des plus beaux. Écoute, à chaque fois, les bras me tombent, je trouve ça franchement dégueulasse.
Aïe, aïe. Ben, je pensais pas que c'était possible. Imagine combien de fois ont été payés les fameux meubles loués.
Ah non, écoute, quand j'y repense, le poil me dresse. C'est une mauvaise utilisation patente des fonds publics. Et si ça devait être vu et su tout le temps, là, ces gens-là, ce serait parce que cette dame-là dont je parle, elle s'est présentée sous une autre bannière, puis elle a été réélue. Puis nous, toute la campagne, on s'est dit, est-ce qu'on rend cette information-là publique? Est-ce que ça alimente le débat public? Puis finalement, on avait décidé de pas le faire, mais ça m'est toujours resté en travers de la gorge.
Je te comprends.
Parce que, écoute, peut-être est-ce que c'est refait payer des nouveaux meubles après? Je ne sais pas, mais ça, en tout cas, c'est une image qui m'avait beaucoup marqué.
Tout à fait. Dominique Vallière, merci beaucoup. On se reparle demain.
Merci à toi. Ciao.